Nous sommes le mardi 19 mars 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Le journaliste congolais Stanis Boujakera, condamné à 6 mois de prison après avoir été jugé pour un article ayant mis en cause les renseignements militaires dans la mort d'un opposant. Au Nigeria, l'armée nie toute représailles après l'assassinat de 16 militaires dans l'état du Delta. En Gambie, les députés progressent dans l'examen d'un projet de loi réinstaurant l'excision, une démarche vivement critiquée par des ONG de défense des droits de l'homme. En Haïti, des corps sans vie retrouvés près de la capitale Port-au-Prince au moment où la population attend toujours de nouvelles autorités. En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera, détenu depuis 6 mois, a été condamné hier à 6 mois de prison, selon un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa. Le parquet avait requis 20 ans de détention. Eddy Sango.
Reconnu coupable de contrefaçon, faux en écriture, usage de faux, transmission des messages erronés, Stanis Boujakera est condamné à 6 mois de prison et à une amende d'1 million de francs congolais, soit près de 400 $. À l'issue du procès démarré en octobre, le ministère public avait requis 20 ans de prison. Stanis Boujakera a été arrêté le 8 septembre à Kinshasa et jugé depuis pour un article non signé. Il était accusé d'avoir fabriqué et distribué une note des renseignements civils incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okende, retrouvé mort le 13 juillet dernier dans sa voiture à Kinshasa. La défense du journaliste conteste fermement ces accusations et a promis de faire appel. Le 29 février, les parquets avaient annoncé que l'autopsie avait établi que l'opposant s'est suicidé, loin de la thèse de l'assassinat avancée par son parti. Reporters sans frontières a salué lundi la liberté bientôt retrouvée du journaliste en rappelant qu'il n'aurait jamais dû être arrêté, poursuivi et condamné dans ce qu'elle considère comme un dossier monté de toutes pièces contre lui.
Au Nigeria, l'armée affirme n'avoir mené aucune attaque de représailles dans l'état du Delta, alors que des hommes ont été accusés par les habitants d'avoir incendié un village après la mort de 16 militaires au cours du week-end. L'armée réfute toutes les affirmations selon lesquelles elle aurait lancé des attaques de représailles dans la communauté d'Okuama après l'incident. La communauté a été désertée avant même que les troupes n'arrivent sur les lieux, a indiqué hier dans un communiqué le major général Edward Buba, porte-parole de l'armée nigériane. La réponse de l'armée sera mesurée et elle ne se laissera pas guider par les émotions et par l'état de droit, ajoute-t-il. Les militaires assassinés étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés de 2 villages voisins de Kouama, d'ethnie Urobo, et d'Okoloba, d'ethnie Ijor. Un civil a également été tué, d'après le président Bola Ahmed Tinubu, qui a déclaré avoir donné à l'armée les pleins pouvoirs pour traduire en justice toute personne jugée responsable de ce crime inadmissible contre le peuple nigérian. Les députés gambiens ont progressé hier dans l'examen d'un texte controversé visant à lever l'interdiction des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015 en le soumettant à une commission parlementaire. Dili Diko.
La question des mutilations génitales féminines divise la Gambie depuis des mois. Des centaines de personnes, pour ou contre le projet, se sont rassemblées pour protester devant le Parlement. Le projet de loi vise à préserver les principes religieux et à sauvegarder les normes et les valeurs culturelles, a déclaré le député Almame Giba, qui a présenté le texte. L'interdiction de l'excision est une violation directe du droit des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion, a-t-il ajouté. Les militants et les ONG de défense des droits de l'homme affirment que la législation annule des années de progrès et risque de nuire au bilan du pays en matière de droits de l'homme. Il y a un risque inhérent que ce ne soit que la première étape et que cela conduise au recul d'autres droits tels que la loi sur le mariage des enfants et pas seulement en Gambie mais dans l'ensemble de la région, a déclaré Divya Srinivasan de l'ONG Equality Now. Les députés ont renvoyé lundi le texte à une commission parlementaire qui va l'examiner pour au moins 3 mois avant d'être à nouveau débattu. 42 ont voté pour et 4 contre.
Le Maroc rejette les accusations d'Alger sur un projet de spoliation de biens de l'ambassade algérienne à Rabat, lui appartenant à Rabat. C'est infondé, ça contient beaucoup d'allégations erronées et ça préside d'un esprit d'escalade non justifié, a déclaré hier une source diplomatique marocaine à l'AFP. L'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, condamnant une série d'actes hostiles de son voisin concernant en particulier le Sahara occidental et la normalisation avec Israël. Rabat a jugé cette décision complètement injustifiée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, 14 corps sans vie ont été retrouvés hier dans une banlieue aisée de Port-au-Prince où des membres de gangs continuent de mener des attaques. Nani Talani.
Des témoins racontent avoir vu une dizaine de dépouilles à Pétionville, situées en banlieue de Port-au-Prince, sans expliquer dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées. Ils ont plutôt affirmé que des bandits armés semaient la terreur à La Boule et Thomassin, deux quartiers de Pétionville. Ils ont attaqué une banque, une station essence et des résidences privées. Parmi les maisons vandalisées figure celle d'un juge à la Cour des comptes qui a pu évacuer les lieux de justesse grâce à une intervention policière. Des tirs étaient toujours entendus à Pétionville hier en début d'après-midi. Haïti est en proie à un regain de violence depuis le début du mois lorsque plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince dans le cadre d'une lutte contre le Premier ministre Ariel Henry qui a annoncé sa démission lundi dernier. Dimanche, le couvre-feu a été prolongé jusqu'à mercredi dans le département de l'Ouest qui englobe Port-au-Prince, la capitale.
Pendant ce temps, les Haïtiens attendent la mise en place d'autorités de transition dont la finalisation pourrait être imminente, indique Washington. En effet, d'après le département d'État américain, les parties prenantes en Haïti sont très proches de finaliser la composition du conseil présidentiel de transition, disant attendre des nouvelles de leur part dès aujourd'hui. Ce n'est pas impossible, a dit pour sa part la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, mais je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs, a ajouté Kamina Johnson-Smith après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur Haïti. Vladimir Poutine a salué hier le retour à la patrie des territoires ukrainiens occupés par Moscou après sa très large réélection à l'issue d'une présidentielle sans opposition. Sa victoire est applaudie par ses alliés mais rejetée par les Occidentaux. Chimel Gandounou.
Le président Vladimir Poutine, 71 ans, est apparu hier soir sur la place Rouge pendant un concert au pied des murs du Kremlin. Accueilli par la foule au cri de « Russie, Russie », M. Poutine, accompagné sur scène de ses trois adversaires à la présidentielle, a assuré que son pays irait de l'avant, main dans la main avec les territoires conquis à l'Ukraine. M. Poutine a récolté 87,28% des voix à l'issue de ce scrutin qui s'est tenu de vendredi à dimanche. Mohamed Idriss Déby Itno du Tchad lui a adressé ses chaleureuses félicitations et a appelé à raffermir la coopération tchado-russe. Le général Abdourahman Tiani du Niger lui a adressé ses chaleureuses félicitations, l'assurant de sa volonté de renforcer des relations déjà excellentes avec son pays. Par contre, Berlin, Londres, Paris ont de leur côté fustigé un vote sous contrainte, sans opposition et en pleine répression. Et les États-Unis ont estimé hier que l'élection de Vladimir Poutine relevait d'un processus incroyablement antidémocratique.
Oui, le chef de la junte malienne a également adressé ses vives félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection à la tête de la Russie. En sa qualité de partenaire stratégique et sincère du Mali, je lui renouvelle toute notre amitié, écrit le colonel Assimi Goïta dans un message publié sur les réseaux sociaux hier. L'armée israélienne affirme avoir tué hier des dizaines de combattants palestiniens et arrêté plus de 200 lors d'une vaste opération contre l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite terriblement préoccupée par les combats à Al-Shifa. Washington a de son côté confirmé la mort de Marwan Issa, chef adjoint de la branche armée du Hamas. Le président américain a déclaré qu'une offensive terrestre à Rafah voulue par Israël serait une erreur. Joe Biden, qui s'est dit profondément inquiet, a obtenu la venue à Washington d'une délégation israélienne pour en parler, d'après la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao appellent le régulateur du secteur à ouvrir une discussion sur la refonte de son mécanisme de fixation des prix et revoir sa grille de prix afin de permettre aux agriculteurs de bénéficier des prix mondiaux plus élevés. Les producteurs ivoiriens sont payés entre 1300 et 1500 francs CFA par kilo, alors que les Camerounais reçoivent près de 4000 francs CFA par kilo pour leur cacao. La production nationale de pétrole de la Libye dépassera 1,5 million de barils par jour d'ici fin 2025 et atteindra 2 millions de barils par jour d'ici 3 ans, a déclaré lundi le chef de la société pétrolière d'État, Farah Bengdara. Ces chiffres pourront être atteints grâce à des inspections financières continues des projets en cours. La production pétrolière de la Libye est actuellement de 1,220 millions de barils par jour. Pour terminer, l'Union européenne va signer dimanche au Caire un partenariat de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte, plongée dans sa pire crise économique. L'accord comprend 5 milliards d'euros de prêts, 1,8 milliard d'investissements, 400 millions d'aides pour des projets bilatéraux et 200 millions d'aides pour des programmes portant sur la migration.
Et maintenant, les nouvelles sportives avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Football, le Maroc s'arrache une autre pépite.
Oui, après Brahim Diaz, Luis Velilès Marzouha, joueur du Betis Séville, a décidé de jouer avec les Lions de l'Atlas, selon le quotidien espagnol AS. Né en 2009 d'un père espagnol et d'une mère marocaine, il a joué auparavant l'équipe U15 d'Espagne. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk nous parle de ses binationaux qui ont opté pour leur pays d'origine.
Il y a quelques nouveautés dans cette équipe du Maroc. Tout d'abord, il avait annoncé les journalistes à mettre en difficulté le sélectionneur Luis de la Fuente. Et le joueur avait même accompli un exercice de communication dans le courant de la semaine pour expliquer son choix. Il y aura également d'autres jeunes issus du football espagnol. Je pense en particulier aux jeunes du Real Madrid de junior Youssef El Khedim, 18 ans, qui découvrira l'ambiance d'un groupe professionnel, d'une sélection nationale quatrième de la dernière Coupe du Monde. Elias Arromage de Villarreal, le retour du virevoltant Soufiane Rahimi qui marche sur l'eau en Champions League asiatique avec son club émirati de l'Ain, qui a déposé l'équipe de Nasser de Cristiano Ronaldo avec un Rahimi qui a marqué lors des 2 matchs, 3 buts. Et donc voilà, un air de changement, un air de renouveau dans cette équipe du Maroc, avec la possibilité de préparer ses gammes lors de 2 sorties amicales contre l'Angola et la Mauritanie. On verra si Walid Regragui va changer son fusil d'épaule, s'il va surtout réussir à muer de son 4-1-4-1 vers d'autres stratégies de jeu, vers d'autres schémas de jeu, avec la possibilité d'utiliser Brahim Diaz sur le maximum de ses qualités, joueur capable d'aller au duel, de provoquer en 1-1, de garder le ballon, de jouer dans plusieurs positions. Ça peut être l'arme fatale de cette équipe du Maroc New Look.
Merci Amine Birouk.
Lionel Messi absent pour 2 matchs amicaux de l'Argentine aux États-Unis.
Le capitaine de l'Argentine va manquer les 2 prochains matchs amicaux de l'Albi Céleste aux États-Unis la semaine prochaine en raison d'une blessure musculaire selon la Ligue américaine. La MLS a publié dimanche la liste des joueurs retenus par leurs sélections respectives et Lionel Messi n'y figure pas. Les champions du monde 2022 vont affronter ce vendredi le Salvador à Philadelphie et le Costa Rica le mardi 22 mars à Los Angeles dans le cadre de la préparation à la prochaine Copa América qui se tiendra ici aux États-Unis. En raison d'une légère blessure à l'ischio-jambier de la jambe droite, Le joueur de 36 ans n'a pas participé à la victoire de l'Inter Miami 3-1 face à Nashville mercredi dernier en Ligue des champions de la CONCACAF, ni au match de MLS contre DC United à Washington, remporté 3-1.
Merci bien, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce mardi 19 mars 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Les militaires au pouvoir au Niger ont dénoncé avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis qui dispose d'une base de drones dans ce pays. En réaction, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a fait savoir sur X que Washington avait pris connaissance du communiqué du régime de Niamey et qu'il faisait suite à des discussions franches sur les préoccupations des États-Unis concernant la trajectoire de la junte. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint ici dans la capitale américaine Michael Shurkin, politologue à 14N Strategies.
Les États-Unis cherchaient à garder un bon rapport avec le Niger, avec la junte. Mais le problème, c'est que le gouvernement américain est vraiment tiré entre deux tendances. Une tendance, c'est une tendance réaliste qui prêche la coopération avec les juntes. L'autre tendance, c'est de promouvoir les valeurs et de promouvoir la démocratie. Mais entre ces deux tendances, le gouvernement ne sait pas comment résoudre cette tension, et le gouvernement arrive à couper le bébé en deux. C'est-à-dire qu'on essaie de communiquer à la junte une volonté de travailler avec, mais on ne peut pas s'empêcher aussi de critiquer la junte en disant qu'il faut avoir des élections, il faut avoir une transition démocratique, etc. Aussi, les Américains disent d'un côté, oui, on accepte vos choix et votre souveraineté, mais à la fois, on dit que oui, mais il ne faut pas travailler avec les Russes ou les Iraniens ou ceci, cela. Et donc, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas prêcher, mais on prêche.
Les États-Unis avaient semblé avoir une position plus conciliante que la France, par exemple.
Oui, donc la France voulait être dure en disant qu'il faut être dur avec les gens, qu'il faut les mettre la pression, il faut arrêter d'offrir de l'aide quelconque. L'approche américaine, on cherchait un compromis, on cherchait d'être plus conciliant pour préserver les rapports avec la junte, mais aussi pour préserver les bases de drones qui se trouvent au Niger. Mais évidemment, cela n'a pas marché.
Quelles sont les options qui s'offrent aux États-Unis maintenant?
Bon, maintenant, on n'a pas beaucoup de bonnes options. Il faut négocier le départ des troupes américaines. Il faut négocier la fermeture des bases. Et ça reste une grande question. Qu'est-ce que les Américains vont faire avec les bases? Est-ce qu'on va donner les clés aux Nigériens? Je ne sais pas si on va faire ça, parce qu'on a peur que si on donne les clés aux Nigériens, les Nigériens vont donner les clés aux Russes. Ça va être un événement qui serait très mal à digérer ici à Washington.
Alors, au vu des changements qui s'opèrent dans le Sahel, quelle devrait être la posture des États-Unis? Est-ce qu'il faut abandonner la région au profit d'autres puissances ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre? C'est une sorte de dilemme au vu de...
Oui. Bon, on va rester sur place. Les ambassadeurs restent sur place, les embassies restent là. Il faut toujours trouver des moyens de travailler avec. Mais cette assistance va rester à une petite échelle. Et donc, mais on travaille, on communique en espérant des meilleurs jours à l'avenir. Donc, il ne faut pas les abandonner. Mais il ne faut pas avoir de l'espoir qu'il y aura un changement bientôt, dans l'avenir proche.
Michael Shurkin, politologue à 14N Strategies, basé ici à Washington. Au Nigeria, un dilemme climatique pressant se pose. Dans certaines zones, la population se tourne vers le charbon de bois face à l'escalade des prix du gaz de pétrole liquéfié, aussi appelé gaz de cuisine. Au cœur du pays, dans le centre-nord, des hommes coupent les arbres destinés à la production de charbon de bois par les charbonniers, activité constituant une industrie de grande envergure. Sur le terrain, le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Philippe Adenia, âgé de 70 ans, est père d'une grande famille dans le village d'Ucha, dans l'état de Benue, au centre-nord du Nigeria. Depuis 20 ans, il fabrique du charbon du bois pour subvenir aux besoins de sa famille. Le secteur de la coupe et la fabrication du charbon est en plein essor. Les Nigériens se tournent vers le charbon de bois et le bois de chauffage pour faire face au prix exorbitant du gaz de cuisine. Le charbonnier explique la procédure de fabrication.
Après avoir coupé les arbres, on trouve des jeunes. Moi, j'ai déjà mes propres jeunes qui m'aident. Ils viennent et nous rassemblons tout le bois coupé. Nous le recouvrons avec du sable et peu importe la taille, entre 6 à 7 jours, tout est calciné. Je le mets dans les sacs et mes clients viennent l'acheter.
Auparavant, 50% de la superficie du pays était couverte d'arbres. Mais aujourd'hui, 90% de ces arbres ont été abattus. De nombreux sacs de charbon de bois peuvent être vus le long des grands axes routiers en attente d'acheteurs, signe d'une demande accrue. En raison de la hausse vertigineuse des prix du gaz, beaucoup de Nigériens se sont tournés vers le charbon. Mohamed Tijani Ibrahim est vendeur de charbon.
La raison pour laquelle les gens aiment utiliser du charbon de bois est que le charbon ne salit pas votre marmite. Votre marmite restera toujours propre. Deuxièmement, il n'y a pas d'électricité dans notre communauté actuellement et le prix du gaz est élevé. Les gens préfèrent donc utiliser du charbon de bois pour le moment.
À cause de la forte demande, le prix du charbon de bois a également augmenté et certaines personnes se tournant vers le bois de chauffage. Mohamed n'est pas le seul commerçant du charbon dans cette localité. Sa sœur Sarahatou Abdoulaye vend aussi du charbon pour aider la famille à joindre les débouts.
Nous disons merci à Dieu. Actuellement, nous vendons très bien plus qu'avant. Et maintenant, les gens achètent du charbon de bois à cause du prix élevé du gaz. Avant, on vendait un sac de charbon de bois à 2000 naira, mais aujourd'hui, il est vendu à 5000 naira et Dieu merci, les gens viennent en grand nombre pour acheter. Ce commerce de charbon de bois m'aide avec ma famille.
Le bois de chauffage, qui sert désormais de combustible principal pour la cuisine de la majorité des Nigériens, provient de l'abattage illégal d'arbres. De nombreux résidents préfèrent se servir du charbon de bois pour la cuisine. Soule Tehan, enseignante de profession, utilise désormais le charbon de bois.
Quand le prix du gaz est devenu trop élevé, il n'y avait pas d'autre alternative, alors je me suis tournée vers le charbon de bois. Ce n'est pas parce que j'aime utiliser du charbon de bois. Le charbon de bois me prend beaucoup de temps à cuisiner.
Classé au 9e rang mondial, le Nigeria possède la plus grande réserve de gaz d'Afrique. Malgré l'abondance, le prix du gaz de cuisine a continué d'augmenter. Gilbert Tamba, de retour de Benue pour VOA Afrique.
Au Togo, la culture de la noix de cajou connaît une certaine embellie. Les productions ont atteint près de 40 000 tonnes l'année dernière, ce qui équivaut à une hausse de plus de 120% sur une décennie. Cependant, les opérateurs du secteur sont appelés à relever un grand nombre de défis en vue d'un meilleur développement de la filière. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Moussou.
Depuis la reprise en main de la filière anacarde au Togo il y a une dizaine d'années, la production de la noix de cajou connaît une progression qui enchante les producteurs. La production est en effet passée en 5 ans de 22 937 tonnes en 2019 à 38 880 tonnes en 2023, soit une augmentation de 70%. Selon Kweziwezu Alassane, président des pépiniéristes du Togo, le pays vient de loin, d'autant que 7000 hectares d'anacarde avaient été abattus dans le passé.
En 2014, l'état des lieux montre que l'anacarde au Togo produit en moyenne 390 kg à l'hectare. Et c'est vraiment en deçà de ce que fait le Bénin, le Ghana, les autres pays producteurs. Et donc, des missions ont été faites vers le Ghana qui a autorisé que l'on puisse avoir les plants issus des centres de recherche Et parce qu'au niveau du Ghana, ils sont déjà à 1 tonne à l'hectare. Donc nous avons pu obtenir cela qu'on a aussi planté chez nous.
Une dizaine d'années plus tard, les producteurs et tous les autres acteurs de la filière se frottent les mains. Komlan Gozan, président du conseil d'administration du conseil interprofessionnel de la filière Anacard au Togo.
La filière Anacard se porte très bien. Nous faisons plus de 17 à 20 milliards de chiffre d'affaires à l'exportation par an. Donc c'est une filière qui a créé beaucoup d'emplois, qui a réduit le chômage au Togo parce que nous avons des unités de transformation qui emploient chaque année plus de 2000 à 3000 dans l'ensemble.
Cependant, la filière fait face à des défis de vieillissement du verger, de la qualité des produits et surtout de la transformation des noix. Anani Kpadenou, membre du conseil de coordination de la filière, demande à l'ensemble des acteurs de s'investir pour relever ces défis.
Les défis, ce n'est pas au gouvernement seul de les relever. Nous sommes convaincus que si nous nous engageons à travailler ensemble, nous pouvons relever les 3 défis majeurs de la feuille de route qui sont la production à grande échelle. Et là, c'est en termes de quantité et aussi de qualité, la transformation agro-industrielle et le développement des exportations.
À cela, il faut ajouter le défi de la consommation du fruit et de la noix d'anacarde qui n'a pas bonne presse auprès de la population. Komlan Gozan, président du conseil interprofessionnel de la filière anacarde au Togo.
L'anacarde, c'est un produit agricole comme tous les autres produits. Malheureusement, c'est un produit qui est diabolisé. Il y a trop d'interdits autour de ce produit, des mythes. Que quand tu le prends, tu bois de lait, tu prends le sucre, tu meurs. Donc nous voulons montrer aux yeux de la population togolaise que ce sont des tabous qui ne sont pas fondés. Donc il faut qu'on fasse sa promotion.
Pour ce faire, une journée nationale de l'anacarde au Togo vient d'être instaurée pour faire mieux connaître le produit aux populations. Kossi Boussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé. Sur 102.3 FM.
Les législateurs américains ont réagi à une série de remarques formulées samedi dernier par Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle de novembre. Quant au président démocrate Joe Biden, il n'était pas en campagne durant le week-end écoulé, mais il a également fait les gros titres. Véronica Balderas-Iglesias de la VOA fait le point, le récit avec Lionel Gaïman.
L'ancien président républicain Donald Trump a fait les gros titres pour plusieurs remarques qu'il a faites lors de sa campagne samedi à Dayton, dans l'Ohio. L'une d'entre elles est intervenue alors qu'il critiquait la construction par la Chine d'usines de fabrication de voitures au Mexique.
Nous allons imposer des droits de douane de 100% sur chaque voiture qui franchira la frontière et vous ne pourrez pas vendre ces voitures si je suis élu. Maintenant, si je ne suis pas élu, ça sera un bain de sang pour tout le monde. Ça sera la moindre des choses, un bain de sang pour le pays.
La campagne de M. Trump a souligné que ce commentaire ne concernait pas la violence politique. Le sénateur républicain Bill Cassidy a donné son avis lors de son passage à l'émission Mythe de presse de la chaîne NBC.
Le ton général du discours est la raison pour laquelle de nombreux Américains continuent de se demander si le président Trump devrait être président. Cela dépendra de comment ça va être interprété. Il se présente contre Biden, donc Biden va dire qu'il s'agit de violence politique. Ses défenseurs vont dire qu'il s'agit d'un désastre économique.
Le député républicain Mike Turner de l'Ohio, qui a participé à l'émission This Week sur ABC, a donné son avis sur les propos de Trump, qualifiant certains migrants de ne pas être humains et sur la manière dont Biden a traité les passages illégaux à la frontière. Mike Turner, député républicain.
Je pense que le peuple américain n'est pas d'accord avec ces propos, mais je pense que les gens voient que Donald Trump est le seul candidat dans cette course qui sera capable de résoudre cette crise.
L'événement de samedi, Donald Trump a également réitéré ses critiques à l'égard des politiques économiques du président Joe Biden et n'a pas manqué de souligner l'urgence de la situation en appelant ses partisans à se mobiliser pour les élections générales. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle.
Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections dans ce pays si nous ne gagnons pas cette élection. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres élections et certainement pas des élections significatives. Nous ferons mieux de sortir. En fait, je dis que la date du 5 novembre, ne l'oubliez pas, sera la plus importante de l'histoire de notre pays.
La campagne du président Biden a également attiré l'attention des médias ce week-end, car elle a franchi une étape importante en matière de collecte de fonds. Il dispose désormais de 155 millions de dollars. Sur cette somme, 53 millions de dollars ont été collectés au cours du seul mois de février. La nouvelle est tombée alors que Biden s'apprêtait à organiser un brunch pour des dirigeants catholiques dimanche à la Maison-Blanche à l'occasion de la fête de la Sainte-Patrick.
Et voilà, Le Monde Aujourd'hui, édition matinale du mardi 19 mars 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.